Benvinguts a aquesta segona jornada sobre pensament i l'escriptura de Salvador Dalí. I per a mi és un gran plaer de poder presentar a la professora Astrid Rufa, que és una de les investigadores més interessants des d'un punt de vista de la manera de veure l'escriptura i l'art de Salvador Dalí, i la que d'alguna manera està aportant noves interpretacions. Astrid Rufa és maître assistente de la secció de francès de la Universitat de Lausanne, ha coeditat l'obra Salvador Dalí a la Croisée de Savoirs, publicat l'any 2007, i és autora de nombrosos articles interdisciplinars sobre Dalí, Barreton, Roussel i altres surrealistes, i de l'imaginari surrealista i científic d'aquest moment de la història de l'art. El que jo voldria recomanar és el seu darrer llibre, que es titula Dalí et le dynamisme de forme, l'élaboration de l'activité paranoïcritique dans le contexte socioculturel des années 20-30, que és una mica el títol, una mica el subjecte de la conferència que Astrid ens té preparada per aquest cicle, i que és un llibre que precisament compara, elabora el mètode paranoic crític des d'aquest punt de vista literari, des d'aquest punt de vista de les formes, de la manera en què es desenvolupa tot aquest imaginari. Bé, jo us deixaré amb la paraula d'Astrid Rufa i després ja, una vegada acabat, passarem al debat. Gràcies. Merci beaucoup, Astrid, pour avoir accepté notre invitation.
Bonjour et tout d'abord un grand merci au professeur Terry Cabras et à l'Université de Girona pour cette invitation. Je suis particulièrement heureuse de donner une conférence sur Dalí écrivain, car il s'agit de l'aspect de Dalí qui me fascine et m'intéresse le plus. Aujourd'hui, je vais m'occuper des récits écrits par Salvador Dalí durant la période surréaliste. Rappelons tout d'abord que la faculté de raconter une histoire est une faculté essentielle, propre à l'homme, une faculté cognitive qui permet d'organiser les événements, de leur donner du sens et de connaître le monde justement. Et en particulier, raconter une histoire ne va pas de soi. Les écrivains, en fonction de leur époque, de leur esthétique, de leur culture, ne cesse de penser et repenser le récit en inventant des formes narratives nouvelles. Et les surréalistes en particulier interrogent, questionnent le récit. Ils sont très méfiants par rapport à cette forme d'organisation des événements parce qu'il s'agit d'une forme logique et causale d'organisation du monde, mais en même temps on constate que dans les textes surréalistes il y a des récits et il y en a beaucoup. Il n'y a pas de refus du récit, il y a une réinvention des formes narratives par les surréalistes. Et justement, j'aimerais aujourd'hui mettre en valeur les nouvelles logiques narratives, en particulier imaginées et conçues par Salvador Dalí. Tout d'abord, je vais donner quelques éléments de définition du récit, des éléments de définition qui vont me permettre d'analyser les récits de Dalí en particulier. Ensuite, je vais évoquer brièvement la position du chef du groupe surréaliste de Breton, position théorique et pratique par rapport au récit, et cela pour le mettre en perspective par rapport à Dalí et à ses propres récits. Les récits de Dalí fonctionnent de manière tout à fait différente par rapport aux récits de Breton. Je vais montrer qu'il y a une évolution dans les textes de Dalí. On passe de la description à la narration. Il y a une portée cognitive de ces récits. Il y a l'imaginaire alchimique qui est toujours présent quand on raconte un récit chez Dalí. Je vais me pencher sur les modèles littéraires utilisés par Dalí pour concevoir ses propres récits et enfin les modalités narratives propres à Dalí. Et justement, cette comparaison entre Breton et Dalí me permettra de montrer l'originalité propre à Dalí au sein même du groupe surréaliste. Alors tout d'abord, quelques éléments de définition. Le récit est une organisation spécifique des éléments, une séquence, un type de séquence. Et voilà quelques caractéristiques. Quand il y a récit, il y a toujours une succession d'événements dans le temps, donc il y a une dimension temporelle. Mais cela ne suffit pas pour avoir un récit. Il faut également un être humain ou des sujets anthropomorphes, donc une implication d'intérêt humain. Et surtout, ce qui est essentiel pour avoir un récit, c'est la mise en intrigue, c'est-à-dire la mise en séquence selon une organisation bien précise des éléments, c'est-à-dire une organisation selon le principe du nœud et du dénouement. C'est-à-dire on déclenche une transformation et on termine le nœud et on termine la transformation, le dénouement. La séquence nœud-dénouement, c'est une logique causale. Il y a une cause de changement et il y a un effet de ce changement. Je vais vous donner la séquence complète du récit. D'habitude, il y a une situation initiale. On décrit le monde et les personnages. Il y a le nœud, le déclenchement d'un changement dans ce monde. Il y a le dénouement, c'est-à-dire la fin du changement, la fin de la transformation, et puis la situation finale après la transformation. Or, pour avoir un récit, il faut au moins deux éléments, le nœud et le dénouement. Les autres éléments ne sont pas indispensables. On peut mesurer le degré de narrativité des textes, c'est-à-dire on peut avoir des textes plus ou moins narratifs. On a des textes fortement narratifs quand il y a un lien causal fort entre le nœud et le dénouement. On a également un texte très narratif quand on met en scène des personnages qui agissent et non pas qui subissent les actions. Donc des personnages qui volontairement agissent. Et on a également un texte très narratif quand il y a un moment explicatif où on interroge l'agir humain, par exemple dans les fables ou dans le mythe, qui vise justement à expliquer l'agir humain. Or, la position le texte narratif peut se situer à différents niveaux. Il peut englober l'ensemble du texte. On a par exemple un conte. Le conte est un genre narratif par définition. Mais on peut avoir également des sous-séquences narratives. C'est-à-dire, par exemple, la situation initiale du récit peut elle-même être un récit. Donc, on a la possibilité d'avoir des récits dans le récit. On a différents types de récits, une grande variété en fonction du genre et en fonction de son caractère factuel, si on a une autobiographie ou bien fictionnelle, par exemple dans le cas du mythe. En tout cas, chaque fois, il s'agit d'une construction de l'esprit. Alors, quelle est la position du surréalisme par rapport au récit? Tout d'abord, une grande méfiance par rapport à la logique causale et rationnelle du récit, justement, ce lien causal entre le nœud et le dénouement, parce que ce qu'on prône, c'est la logique du rêve et du subconscient. Également, une méfiance par rapport à l'intentionnalité liée à l'action, donc des personnages qui agissent rationnellement et intentionnellement, alors que les surréalistes prônent l'automatisme psychique. On a également une grande méfiance dans le premier manifeste par rapport au récit réaliste et le récit naturaliste en particulier, méfiance ou refus net de la psychologie chez Zola, par exemple, dans le roman expérimental, ce déterminisme entre le comportement de l'homme et son milieu, cette idée que tout comportement humain est déterminé par le milieu. Il y a également refus de la part de Breton d'un narrateur omniscient et d'analyse explicative. Ce qui compte pour Breton, c'est l'acte individuel et, je cite, « tout acte porte en lui son explication, donc pas besoin de l'expliquer ». On s'oppose également à la réalité extérieure comme vérité, parce que la réalité extérieure est considérée comme, je cite, une réalité de premier plan qui nous empêche de bouger. Il s'agit de concevoir une réalité plus vaste qui implique justement la réalité psychique également. Et surtout, on s'oppose au roman logiquement programmé. Le roman ne doit pas être programmé, mais il doit être le fruit du hasard objectif en particulier. Il s'agit de d'écrire, je cite, d'écrire un roman qui puisse ne pas finir. Donc, il y a vraiment une mise en crise du récit, mais comme je vous disais, il n'y a pas refus net du récit, de cette logique, mais il y a réinvention. Et Breton lui-même donne des exemples de récits différents dans le premier manifeste, le récit de rêve, le récit merveilleux. Il donne l'exemple, il ne s'agit pas du conte merveilleux, il s'agit de récits où intervient le merveilleux, comme chez Lewis dans Le Moine, ou encore, il décrit dans le premier manifeste le faux roman, un roman qui a une intrigue mais qui n'est apparente, parce que ce qui compte, ce sont les mots subconscients qui guident justement l'histoire. Dans Nadja, au début de Nadja, on a également une théorie du roman qui sera appliquée, plus ou moins appliquée dans ce texte. Et voyons donc comment le récit fonctionne chez dans Nadja. Tout d'abord, le texte est un texte narratif dans son ensemble, mais ce qui domine, c'est la logique temporelle, succession d'événements subi par le personnage dans le temps. Donc chaque événement est vécu, mais de manière séparée, sans cette logique de cause à effet. Il y a quand même une logique causale dans ce texte, c'est-à-dire on peut reconstruire cette séquence propre au récit, c'est celle que j'ai mis là. Il y a la situation initiale avec une suite de rencontres, il y a le nœud, un changement qui intervient grâce à l'intervention de Nadja et l'amour pour Nadja. Il y a le dénouement, la sortie de Nadja, la fin de l'amour pour Nadja, et puis une situation finale, une autre rencontre qui se produit. Mais or, cette logique causale est pervertie parce que il s'agit d'une logique non programmée, c'est-à-dire l'intervention de Nadja n'était pas prévue à l'avance. C'est au moment d'écrire le roman que Breton rencontre Nadja. Donc l'intrigue se fait pendant l'écriture. Donc il n'y a aucune programmation de logique cause à effet dans ce texte, mais c'est un personnage qui subit le hasard ou qui vit selon le hasard objectif. Et surtout, on a un récit de vie, donc un récit autobiographique lié à l'expérience propre à Breton, qui est trace d'une réalité autre. C'est-à-dire, la logique fondamentale de ce texte, c'est une logique indicielle. Tout est trace, tout est indice d'une réalité plus large, autre. Les événements sont tous des événements énigmes, vécus comme des énigmes qui pointent vers une réalité autre. Les personnages eux-mêmes sont des indices, ils sont des revenants. Nadja est présentée comme une revenante. Le jeu de Breton est présenté comme un fantôme. Et le livre lui-même est présenté comme un indice, comme une trace d'existence de Nadja. Il est présenté comme, je cite, le livre ombre de Nadja. Donc ce qui compte, c'est vraiment cette logique indicielle, tout est trace énigmatique d'une réalité différente. Mais au sein même de Nadja, il y a un autre type de récit, il s'agit d'une fable. Alors, j'ai reproduit ici le texte, il s'agit de la fin de Nadja où l'on nous raconte un fait divers. Donc, il s'agit d'un texte tiré d'un journal, hein, d'un quotidien, on raconte le fait divers, c'est-à-dire un opérateur par télégraphie sans fil reçoit un message d'un avion qui a un problème. Le nœud, c'est que le message est fragmentaire, on ne sait pas où se trouve l'avion. Et le dénouement, c'est la résolution de l'énigme. L'opérateur parvient à décrypter les conditions d'envoi du message et il parvient à savoir où se trouve l'avion. L'avion se trouve à 80 km de l'île du Sable. Or, ici, on a une logique causale très forte et on a un récit qui a une valeur symbolique. Il s'agit d'une fable. Et ça, on le voit, cette valeur symbolique, par la phrase qui introduit ce récit. Je cite, « Un journal du matin suffira toujours à me donner de mes nouvelles. » Donc, c'est un récit qui parle de l'aventure de Breton. En effet, c'est bien lui qui, grâce à l'écriture liée au subconscient, voyage vers des terres éloignées. Il risque de s'y perdre. Il laisse des messages, des traces, et ces traces peuvent être décryptées par un opérateur, par un lecteur, et peuvent partager cette expérience. Donc, ce récit de voyage et d'avion qui se perd au large et qui peut être retrouvé, c'est aussi l'expérience de Breton, l'expérience surréaliste Breton. Chaque fois qu'il s'agit de parler de l'expérience surréaliste, Breton utilise toujours et systématiquement l'imaginaire du voyage. L'écriture automatique, dans le premier manifeste, est conçue comme un voyage vers des terres merveilleuses, d'où on revient avec une trace, c'est-à-dire le texte automatique. Donc ici, on a une fable parfaitement logique, mais qui met en scène les enjeux de l'expérience surréaliste, c'est-à-dire qui met en scène cette logique de l'indice, des traces qui renvoient à une réalité énigmatique et qui permettent de partager l'expérience surréaliste. Donc, si je résume pour les récits surréalistes de Breton, on a deux types de récits. Un récit de vie, donc un récit autobiographique avec un degré de narrativité relativement faible et toujours lié à des traces, c'est-à-dire à une logique indicielle. Tout est énigme et cette énigme renvoie à une réalité autre, justement. On a également des récits, des fables à valeur symbolique. Là, j'ai donné un exemple, mais il y en a plusieurs dans les textes de Dali. Il y a une logique ici causale très forte, mais ces récits permettent toujours de souligner la logique indicielle propre à l'expérience surréaliste, et cela grâce à l'imaginaire du voyage. Or, chez Dali, il en va tout autrement. Ce n'est pas l'imaginaire lié à la trace, à l'indice qui domine, mais c'est un imaginaire lié à la ressemblance formelle, lié à l'analogie. Et on voit une évolution dans les textes de Dali. On passe entre 27 et 29, on a des textes essentiellement descriptifs, et c'est seulement à partir de 1929 et 1930, avec l'élaboration de l'activité paranoïaque critique, qu'on a des textes, ou en tout cas des séquences narratives, qui interviennent. Et entre 27 et 29, Dali, tout en passant d'une esthétique machiniste à une esthétique surréaliste, il propose un regard absolument documentaire, objectif, anti-artistique qui permet de voir la réalité autrement. L'objet réel devient un objet énigme qui renvoie justement à une réalité autre. Ici, le modèle, c'est l'œil de l'homme de science. C'est un modèle, un œil microscope qui permet de voir l'objet autrement et de le transformer en quelque chose dans un objet inconnu, un objet différent. Et justement, dans les textes de cette période, entre 27 et 29, on a des descriptions, des notations strictes et objectives des faits observés. Or, là, on a un exemple dans les textes documentaires Paris 1929. Dans ces textes, tout d'abord, Dali refuse l'écriture propre des réalistes, parce qu'il s'agit d'un réalisme conçu comme, je cite, « tissu compliqué et très épais des préjugés et de leur système intellectuel ». Alors, il y a un autre réalisme qui est proposé, ce réalisme documentaire, cet excès même d'objectivité, qui permet de voir l'objet autrement. Et justement, dans ces textes, on a une série de descriptions. Ici, je vous donne l'exemple du documentaire numéro 3. On décrit une table, ce qui se trouve sur une table, à deux moments différents. Et ça donne lieu à une litanie de « il y a, il y a, il y a ». Et justement, plus on poursuit dans la lecture du texte, plus l'objet devient énigmatique. Je cite « Sur celle, sur la table où il y avait un papier d'argent froissé, il y a maintenant deux mains de nègre, une moustache, etc. » Avec l'activité paranoïa critique, les choses changent. Cette fois, le modèle n'est plus la vision de l'homme de science, mais c'est la vision interprétative paranoïaque. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une perception visuelle automatique fertilisée par le fantasme, par l'idée obsédante. C'est-à-dire, l'œil schématise automatiquement l'objet et l'associe automatiquement au schéma du fantasme. Donc, on voit ce que l'on désire, et cela par analogie formelle. Donc, ce regard déconstruit l'objet et le reconstruit en fonction de la forme du fantasme, de ce que l'on désire. Et cette vision, ce regard, permet de produire des images doubles ou des phrases doubles, c'est-à-dire une même forme visuelle ou sonore qui contient des contenus tout à fait différents. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette vision paranoïa critique? Il s'agit d'une perception subjective des données, parce que fertilisée par les désirs subconscients, mais également d'une perception partageable et vérifiable, parce que inscrite dans les formes des objets ou dans les formes des mots. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'activité paranoïa critique implique une double temporalité. Il y a l'instantanéité du regard qui voit l'objet et il le voit autrement, mais le fantasme reste latent, ça c'est le premier moment. Et ensuite il y a le deuxième moment, c'est-à-dire la révélation du fantasme. On révèle que l'objet a la forme du fantasme et cette révélation implique une durée, justement. Ça se fait dans le temps. On montre que l'objet ressemble de plus en plus au fantasme. Donc, au niveau artistique, il y a une mise en série d'objets où on montre la ressemblance entre ces objets et justement le fantasme émerge petit à petit. Et au niveau de l'écriture, il y a une mise en intrigue, c'est-à-dire des récits qui fonctionnent par la réitération d'une même idée obsédante ou d'un même schéma d'un même ordre de relation. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Mais tout d'abord, au niveau de l'art, j'aimerais vous montrer justement comment fonctionne cette mise en série. On a des documents, par exemple ici des photos d'oreilles tirées des tableaux synoptiques des traits physionomiques. Donc un document qui permet de voir autrement l'objet, mais ce document est mis en série avec d'autres documents, photos de femmes en extase ou une aiguille modern style. Et cette mise en série permet de dévoiler toujours une même forme obsédante, un type de courbure, c'est donc la forme du fantasme. En ce qui concerne les récits, alors justement, ces récits sont de plus en plus présents dans les textes des années 30. Donc c'est une activité paranoïa critique qui permet de produire finalement des récits. C'est une machine à produire des récits. Et ces récits sont de plus en plus variés, ils se situent à différents plans du texte et ils fonctionnent de la manière suivante. Il y a une logique causale forte entre le nœud et le dénouement, donc il y a vraiment un nœud suivi d'un dénouement, mais cette logique causale est pervertie et investie par l'analogie, c'est-à-dire la réitération d'un même ordre de relation, la réitération d'une même idée, si l'on veut, une idée obsédante. Et ces récits sont toujours nourris par l'imaginaire alchimique. Et justement, ce sont des récits à portée cognitive. J'aimerais dire quelques mots à propos de l'imaginaire alchimique, parce que justement, il est tellement présent pendant les années 30 déjà chez Dali. Alors, je vais donner quelques éléments de définition pour comprendre comment Dali utilise cet imaginaire alchimique. L'imaginaire, l'alchimie est une connaissance de type métaphysique qui suppose un principe unique qui régit l'ensemble du monde. Et c'est parce qu'il y a ce principe unique, cette unité supérieure, que tout ressemble à tout, c'est-à-dire le haut ressemble au bas et vice-versa. Donc il n'y a pas de différence ontologique entre le haut et le bas. Et la chimie procède par une logique analogique, justement, hein. Le haut est comme le bas, l'excrément peut être comme une pierre précieuse. Donc ça, c'est le côté spirituel de la pratique alchimique. Il y a aussi le côté pratique. Hein, on a une pratique en laboratoire où on cherche à transmuer les métaux vils en or, selon justement cette idée de principe unique qui régit l'ensemble de l'univers. Le but de l'alchimie, c'est de trouver la pierre philosophale qui a deux dimensions. Il s'agit d'une transmutation matérielle, mais aussi d'une transmutation spirituelle. Et la chimie implique une disponibilité face au monde, une certaine disposition morale liée à la pureté. Alors la chimie, c'est un imaginaire introduit tout d'abord par Breton dans le second manifeste, et cela pour redéfinir le surréalisme et pour prendre position, par exemple, par rapport à son adversaire du moment Bataille. Alors la chimie ici est repensée totalement, elle est ramenée sur le plan psychologique. Dans le deuxième manifeste, Breton affirme que la pierre philosophale est, je cite, le triomphe de l'imagination. Donc il ne s'agit pas du tout d'une connaissance métaphysique, mais d'une connaissance plutôt psychologique. Et Breton utilise la chimie pour penser à ce moment-là l'écriture automatique. Comme pour les alchimistes, pour écrire automatiquement, il faut des conditions de pureté d'âme. Si ces conditions ne sont pas là, on a une écriture automatique qui produit des stéréotypes et des lieux communs. Et en effet, à ce moment-là, en 1930, l'écriture automatique connaît ces problèmes-là. Elle produit de la stéréotypie. Mais justement, ici, il y a une défense de l'écriture automatique par cette mise en parallèle avec l'alchimie. Et la chimie est également utilisée pour penser le stade d'évolution et d'avancement du surréalisme. C'est-à-dire, les surréalistes sont comme les premiers alchimistes. Ils sont au stade préparatoire. Ils n'ont pas encore découvert la pierre philosophale, mais ils sont face à des symboles, à des images énigmatiques qui renvoient à une réalité ou autre, des images symboliques. Il s'agira de déchiffrer, mais ce déchiffrement n'est pas encore fait. Donc la chimie, finalement, permet à Breton de mettre en valeur à nouveau ce qui l'intéresse, cette logique de la trace et de l'énigme. Et la chimie est utilisée par Breton aussi pour se positionner par rapport à Bataille. Breton est du côté de l'alchimie, de la pureté, tandis que Bataille, c'est l'inverse. À cause de son goût pour la pourriture, le bas matérialisme, l'excrément, il est du côté justement de ce qu'il appelle cette philosophie excrément. Or, Dali utilise également la chimie pour redéfinir son surréalisme à lui, pour se positionner par rapport à Breton, et aussi pour construire des récits qui sont toujours des récits de transmutation, justement. Alors, tout d'abord, pour définir son surréalisme et définir en particulier l'activité paranoïaque critique. L'activité paranoïaque critique dans L'âne pourri, donc le premier écrit manifestaire sur la paranoïa critique. L'activité paranoïaque critique est conçue comme une transformation alchimique. Ça permet de transformer un objet bas dans un objet élevé. Et en particulier, on nous propose dans ce texte la transformation de l'âne pourri, âne pourri qui cache une autre image, celle de la pierre précieuse. Donc on a vraiment une image double ici qui est proposée, âne pourri, pierre précieuse, qui est nourrie par l'imaginaire alchimique. Il s'agit bien d'une image double, âne pourri qui est la même chose que la pierre précieuse, parce que déjà au niveau formel, comme l'a montré Vicente Santa Maria de Mingo, l'âne pourri et la pierre précieuse ont le même éclat. Visuellement, c'est la même chose, et cela est même montré par Dali lui-même dans le frontispice du second manifeste. Vous voyez au centre de l'image, vous voyez un excrément qui a la même forme et le même éclat que la pierre précieuse. Donc image double, justement, et image alchimique en même temps, mais cette image double est prouvée par le texte lui-même. Dans l'âne pourri, on a une réitération toujours d'un même schéma. On réitère le schéma, l'opposition entre ce qui est pourri et ce qui est né, entre ignorance et connaissance. Donc l'âne pourri devient reflet des pierres précieuses. Il est à la fois merde et terre des trésors. Et surtout, il y a aussi un jeu au niveau du langage par l'homophonie, c'est-à-dire des mêmes sons qui permettent de renvoyer à des significations différentes, des paranomases. Par exemple, j'ai souligné en bleu, la terre des trésors renvoie à la terreur, ou encore l'âge d'or renvoie à des images de terreur. Donc cette image double est prouvée aussi par le texte. Mais la chimie permet aussi à Dali de prendre position par rapport à Breton. Tout d'abord, de dire son adhésion au surréalisme de Breton. Il s'agit d'arriver à la terre de trésor, à l'âge d'or, à l'idéal. Ce sont tous des termes qu'on trouve chez Breton dans le second manifeste du surréalisme. Mais en même temps, avec le temps qui passe, cet imaginaire permet à Dali de dire sa supériorité, la supériorité de l'activité paranoïaque critique par rapport à l'automatisme psychique passif de Breton. En effet, chez Dali, on ne se trouve plus dans la phase préparatoire des alchimistes, mais là, la pierre philosophale est trouvée. Et on fait ces transmutations alchimiques grâce à l'activité paranoïaque critique. Et cela est signalé déjà en 1933 dans « Nouvelle considération générale sur le phénomène paranoïaque ». Je cite la fin du texte. « Les pierres précieuses qui disparaissaient au réveil », donc ça renvoie à Breton, « elles sont maintenant dans la réalité. » Donc la pierre philosophale, grâce à l'activité paranoïaque critique, est là et elle est trouvée. Alors j'aimerais maintenant passer en revue des textes littéraires qui proposent des transmutations alchimiques. Justement parce que Dali ne trouve pas chez Breton des transformations alchimiques. Breton s'intéresse, comme je l'ai dit, à l'énigme, aux indices qui renvoient de manière énigmatique à une réalité ou autre. Mais Dali puise dans d'autres sources et j'aimerais en donner au moins trois. Ce sont des auteurs qui sont extrêmement chers à Dali. Tout d'abord, il y a le Wismans de Labat. Dans ce texte, au début, le personnage propose, le personnage principal, Durtal, propose une nouvelle esthétique qui s'appelle le naturalisme spirituel. Il s'agit d'un excès de naturalisme qui conduit au spiritualisme et en même temps un excès de spiritualisme qui conduit au naturalisme. Et il s'agit d'une esthétique qui fonctionne par transmutation. Justement, ce qui est bas devient élevé. Et le personnage nous donne un exemple de cette transmutation. C'est la crucifixion de Grunewald. Et il la décrit comme, je cite, « des formes des plus abjectes de ce crucifix deviennent lueur ». Ou encore, cette crucifixion est comparée à une divine abjection ou à la sublimation de la détresse infinie de l'âme. Donc ici, on a un texte qui propose une esthétique liée à une transmutation alchimique. Chez Jarry, on va encore plus loin, parce que chez Jarry, on trouve une transmutation alchimique, mais qui se fait par un automatisme. Ce n'est pas un automatisme psychique, mais c'est l'automatisme d'une machine. Il y a par exemple le personnage et objet, bâton à physique, qui est un simple bâton qui, en roulant sur lui-même, sur ses extrémités, permet la connaissance absolue. Donc c'est un simple bâton qui devient pierre philosophale par son mouvement mécanique. Il permet effectivement, je cite, la transformation de l'antéchrist à Dieu, du moins en plus, de plus en moins, etc. On a également cette même idée de transmutation dans la première pièce de Jarry consacrée à Ubu, l'art et la science. On présente Ubu accompagné d'une machine curieuse. Il s'agit d'une pompe à vidange pour vidanger les fosses à Aisance, une machine qui transmute les excréments en or. Donc, ce qui est intéressant chez Jarry, c'est que justement, on a l'idée de transmutation, mais en même temps, l'idée de transmutation qui se fait par automatisme. Et finalement, on a Roussel, et c'est une influence fondamentale. Dans le deuxième chapitre de Locus Solus, on nous présente une machine, l'AI, qui compose une œuvre d'art à partir de dents cariées. Donc, un matériau vil, les dents cariées, deviennent chef-d'œuvre grâce à cette machine inventée par le personnage Cantarell. Or, Dali connaît très bien ce passage et il saisit tout à fait la portée alchimique de cette transmutation parce que il reprend tel quel, sans citer sa source, ce passage plus tard dans la lettre ouverte à Salvador Dali. Et dans ce texte, Dali s'identifie au personnage et il se présente comme un porc capable de transformer les ignominies en un sublime, un ce qui est sublime. Donc il présente ce passage de transmutation alchimique qui se fait par une machine de manière alchimique justement, par cet imaginaire. Et donc ce que j'aimerais montrer, c'est que l'alchimie est le modèle pour les récits de Dali. Les récits de Dali proposent une désublimation qui conduit de l'objet, qui conduit à une resublimation. J'aimerais commencer le parcours des textes de Dali par un texte pas narratif mais descriptif, Le Grand Masturbateur de 1930. Il s'agit d'un texte descriptif mais qui présente déjà l'imaginaire alchimique et cette idée de réitération d'une même idée obsédante. Donc c'est une double logique qu'on va trouver dans les textes narratifs plus tardifs de Dali. Tout d'abord, ce poème est construit sur des éléments antitectiques. On nous propose un cadre, au début et à la fin du poème, on nous propose deux paysages opposés, l'un lié à la montagne, l'autre à la mer, l'un lié à l'architecture, l'autre à la nature, etc. Et au centre de ce cadre, on nous propose une série d'images, une série de simulacres liés à ces motifs du bas, qu'on trouve dans l'étude de Colnay, dont on a parlé hier, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces simulacres énigmatiques présentent toujours le même ordre de relation, un même schéma, le schéma de la transmutation alchimique, c'est-à-dire l'excrément qui est juxtaposé à la pierre précieuse. Ici, j'ai citer quelques passages du texte. Déjà, on nous présente le poème dans le premier paysage comme une route ponctuée d'engrais, de tas de foin, qui conduit au sanatorium et où il y a également une usine de chocolat. Donc le chocolat ressemble à la merde visuellement. Et ensuite, on a la juxtaposition entre escalier au riz d'agate, onyx, à affreuse ride, célèbre furoncle. Ou quand on décrit le grand masturbateur, le premier, on parle de cruel ornement d'or faux, et ce qui entre en résonance avec la véritable merde du deuxième grand masturbateur. Et quand on décrit les deux Guillaume Tell, on parle pour l'un de vrai chocolat, et de l'autre, de fausse merde. Et il y a un passage explicatif qui parle de cette architecture de Guillaume Tell et Grand Masturbateur. On nous dit qu'il s'agit d'une confusion fautive entre tas excrémentiel et œil qui ressemble à une pierre précieuse, le topaze. Donc ce poème fonctionne, est nourri par l'imaginaire alchimique et fonctionne par cette réitération d'un même schéma, d'une même idée obsédante. Si on passe maintenant au texte L'amour et la mémoire, qui est un poème à dominante descriptive, mais là, pour la première fois, on a une sous-séquence narrative. On nous raconte un récit de transmutation alchimique. Donc, le cadre général du poème, c'est une opposition entre la Gala et la sœur de Dali. Gala, principe créateur, amour unique, amour pur. La sœur, c'est du côté des créations et du côté du devenir temporel, du côté de la mémoire. Et au sein de cette opposition, on nous raconte une histoire, l'histoire de Guillaume Tell manipulant le pain. Le pain, ici, est un objet à fonctionnement symbolique qui subit une transmutation. Alors, regardons un peu comment fonctionne cette histoire. Le nœud, c'est la difficulté de Guillaume Tell de grimper sur un arbre avec le pain. Et le dénouement de l'histoire, c'est que Guillaume Tell arrive au sommet de l'arbre et il place le pain dans le nid. Or, cette histoire de conquête de l'arbre cache une autre histoire beaucoup plus fantasmatique, la conquête d'un homme pour une femme. Ce qui se cache ici, c'est le fantasme de l'acte sexuel qui est petit à petit révélé par la réitération d'un même schéma obsédant. C'est le schéma de l'acte sexuel, en tout cas des objets qui symboliquement renvoient à l'acte sexuel. On a toujours un objet dur et long, le pan, entouré par un autre objet plus mou. Alors, j'ai mis ici les passages. On réitère vraiment cette idée, pan entouré par l'étoffe, pan et sa ceinture d'étoffe, pas fixé aux rugosités de l'écorce, pas au milieu du nid à la fin, donc l'acte qui est, qui est accompli. Et en même temps, on a des actes de Guillaume Tell qui rappellent l'acte sexuel, l'acte amoureux. On parle effectivement de contraction. Monté par contraction saccadée et convulsive, on a un pan qui cogne une branche, élever le pan vers son cou ou placer le pan debout au milieu d'un nid. Donc il y a ce fantasme qui est réitéré, mais il y a également une transmutation alchimique de l'objet qui est proposée à travers son récit. En effet, le pan, qui a une portée morale, c'est le fruit du travail, et une portée religieuse, le pan consacré, il fonctionne comme un organe sexuel pour devenir finalement un œuf. Donc on passe du pan qui fonctionne comme un sexe et qui devient l'œuf dans le nid et qui rappelle la connaissance. Et pourquoi on peut dire qu'il y a sublimation alchimique dans le texte, on renvoie toujours à cette idée déjà d'ascension, d'élévation du personnage. Et Guillaume Tell subit une transformation lui-même, en grimpant sur l'arbre. Il a toujours la tête en arrière qui rappelle la position de l'extase, donc la transformation liée à l'extase. Ou encore, quand il arrive au sommet de l'arbre, il a le visage ébloui par le soleil couchant, les yeux furieux. Ces yeux furieux rappellent la fureur amoureuse, mais également la fureur divine propre aux théories néoplatoniciennes, c'est-à-dire cet emportement puissant et enthousiaste d'origine divine et qui est source de connaissances. Je vais peut-être passer au dernier texte. Déjà, dans Objet psychoatmosphérique anamorphique, on nous raconte également une histoire d'un objet qui passe de l'état en forme, morceau en forme excrémentielle, à l'état d'étoile. Et cela par une mise en intrigue. Mais je passe sur ce texte pour arriver à la métamorphose de Narcisse, qui est un cas exemplaire. Il s'agit pour Dali de l'application intégrale de la méthode paranoïaque critique. Et pour moi, il s'agit d'un texte particulièrement intéressant parce qu'il s'agit d'un texte narratif. En soi, il s'agit de raconter la transformation de Narcisse, mais cette mise en intrigue est absolument étonnante chez Dalí. Donc, je vais m'intéresser au poème en particulier et pas tellement au tableau. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un poème narratif, ce qui est étonnant chez Dalí, mais d'un poème à dominance explicative. On nous donne une énigme au début. Et cette énigme est petit à petit expliquée par la révélation du fantasme, c'est-à-dire la transformation du narcisse fleur, du narcisse homme en narcisse fleur. Alors comment fonctionne le texte ? On nous donne tout d'abord une expression à double sens. Il y a un dialogue entre deux pêcheurs de Porrigat et on se questionne sur ce garçon narcissique qui se regarde toute la journée. Né dans la glace. Or, la réponse est énigmatique. Il a un oignon dans la tête. C'est une expression à double sens. Et ce double sens nous est révélé tout de suite. C'est-à-dire, un oignon, ça signifie un bulbe qui peut fleurir. Donc, ça nous donne la fleur, le narcisse. Mais oignon dans la tête, en catalan, signifie aussi complexe, c'est-à-dire narcissisme, problème psychologique. Donc ici, le début et la fin de la métamorphose nous est donné. Et mais dans la suite du poème, on a trois séquences qui explicite de plus en plus la métamorphose de Narcisse. Et cette explicitation de la métamorphose de Narcisse se fait à nouveau, toujours grâce au même procédé, la réitération d'une même idée obsédante et d'un même schéma. Alors ici, l'idée obsédante, c'est la courbe du désir. Quand on désire, on est courbé vers l'objet. Donc cette courbe du désir caractérise les trois séquences qui suivent du poème. La séquence du dieu de la neige. Le dieu de la neige est penché sur l'espace vertigineux des reflets. Donc il est courbé. Dans la deuxième séquence, on a un groupe hétérosexuel dans la fameuse pose de l'expectation préliminaire, donc de la pose de la mante religieuse courbée et prête à dévorer le mâle pendant l'acte sexuel. Et dans la troisième séquence liée vraiment ici à Narcisse, on a ce Narcisse dans la courbe argentée et hypnotique de son désir. Donc il y a cette idée obsédante qui revient dans les trois séquences, mais il y a également un même schéma qui revient dans la séquence du dieu de la neige et dans la séquence de Narcisse. Dans les deux séquences, il y a un récit qui nous est donné. Un personnage se penche, il fonde le désir. Le nœud, c'est le début de la transformation. Il est englouti par l'objet de désir. Le dénouement, c'est la transformation et la germination de la fleur. Or, cette séquence narrative nous est donnée de manière hypothétique pour le dieu de la neige et de manière explicite pour le narcisse. Le tableau fonctionne de manière absolument analogue au poème. On a une image double, c'est le narcisse à gauche, qui est à la fois narcisse homme et narcisse fleur, mais l'image latente nous est révélée sur la droite. On voit bien que la fleur qui naît de l'œuf est déjà contenue dans le narcisse homme. Il y a une analogie formelle entre les deux figures. Donc il y a image double qui est explicitée, et puis il y a réitération d'une même idée obsédante, la courbure. Vous voyez que tous les personnages, absolument tous les personnages, sont courbés dans ce tableau. On a aussi le dieu de la neige, là au fond, en haut, sur la montagne, qui est courbée. Et en même temps, comme dans le poème, ce tableau nous donne deux fois la métamorphose. Bon, la métamorphose au premier plan De manière horizontale, le narcisse homme qui se transforme en narcisse fleur, mais cette métamorphose est également présente au niveau vertical. Vous voyez le dieu de la neige là-haut penché. Il y a un torrent excrémentiel qui descend de la montagne pour s'élever de manière pure et divine à neuf, d'où surgit la fleur. Donc cette métamorphose est dite deux fois. Et la nature de cette métamorphose est justement une nature alchimique. Il y a désublimation et resublimation. Ici, dans le tableau, le dieu de la neige se transforme en flot torrentiel de couleur brunâtre qui descend de la montagne et pour s'entasser sur la plaine et pour redevenir ensuite œuf blanc, qui rappelle l'œuf des alchimistes, la pureté aussi de la couleur blanche, d'où sort la fleur. Et dans le poème, c'est la même chose. Dans le poème, on décrit une désublimation suivie d'une resublimation. Narcisse, je cite, « s'anéantissant bruyamment parmi les cris excrémentiels des minéraux », et puis le narcisse pur qui émerge, l'ovale hallucinant de blancheur de sa tête de nouveau plus tendre, ce sera la fleur, le nouveau narcisse, gala, mon narcisse. Donc il y a un idéal qui est retrouvé, le moi idéal, moi salvateur, le gala, justement. Et donc on a un récit ici qui raconte une transmutation alchimique liée à l'identité de l'homme. Au cœur de ce dispositif de transmutation se trouve un personnage qu'on connaît très bien. Il s'agit de Salvador Dalí lui-même, qui est au figuré, au centre du tableau et au centre du poème. Au centre du poème, on trouve ce groupe hétérosexuel composé de différentes races. Et au centre, on a justement un catalan, j'ai souligné. Il y a le catalan au dos sérieux et bien planté. Dans sa côte pente, une pentecôte de chair dans le cerveau. Celui qui a une pentecôte de chair dans le cerveau, c'est bien Dalí. C'est bien Dalí qui est capable de matérialiser, de donner corps au Saint-Esprit. Et au milieu du tableau, exactement au milieu du tableau, vous trouvez un catalan. Vous voyez ici le catalan avec la barrettina catalane rouge. Donc, au milieu de ce dispositif de transmutation alchimique, vous avez le principe transmutateur, c'est-à-dire Dalí qui incarne la logique du désir. Ici, dans ce texte, vous avez donc un fantasme qui est révélé et qui a la forme lui-même de récit. C'est un récit mythique qui interroge l'origine du sentiment identitaire en le rattachant à la logique circulaire du désir pour accéder justement à la connaissance de soi. Donc si je résume, et je vais arriver à la conclusion, l'activité paranoïaque critique devient petit à petit une machine qui produit des récits. On passe de textes descriptifs à des textes intégrant des séquences narratives. Et les séquences narratives servent à révéler le fantasme ou encore le fantasme prend la forme d'un récit. Ici, je fais un schéma qui résume un peu la situation. Vous regardez tout en haut, première ligne, il y a révélation du fantasme. Révélation du fantasme se fait par le récit dans l'amour et la mémoire, dans objet psycho-atmosphérique et anamorphique. Et il y a également la possibilité d'avoir un fantasme en forme de récit. C'est le cas de la métamorphose de Narcisse. Donc vous voyez, le récit est utilisé à plusieurs niveaux et avec des fonctions différentes en fonction des textes, justement. Mais ils ont toujours les mêmes caractéristiques. On a des récits qui ont une forte logique causale, qui vont même vers le mythe, et qui sont investis de cette logique analogique, réitération d'un même schéma, d'une même idée obsédante ou d'un ordre de relation obsédant. Donc on n'est pas du tout dans la logique indicielle propre à Breton. On a toujours des récits qui sont à la fois factuels, autobiographiques et fictionnels, comme pour dire que la seule réalité, c'est la réalité et la vérité de l'idée obsédante. Le mythe de Narcisse est à la fois un mythe, donc un récit fictionnel, mais il s'agit également d'une expérience personnelle propre à Dali, c'est le mythe de Dali lui-même. Et finalement, c'est l'imaginaire alchimique qui nourrit toujours ces récits et qui permet finalement à Dali, au cours des années 30, de signifier sa supériorité par rapport au surréalisme de Breton. La pierre philosophale a été trouvée par Dali. Or, des récits et l'imaginaire alchimique, on va le retrouver aussi dans la phase post-surréaliste, et là l'imaginaire alchimique servira de manière ironique toujours, servira à Dali pour dire la supériorité non pas par rapport à Breton, mais la supériorité par rapport à tout être humain. Et j'aimerais terminer la conférence en laissant la parole à Dali qui semble assimiler son propre esprit à une pierre précieuse, à la pierre philosophale. Donc c'est lui-même le principe de la connaissance. C'est tiré de comment on devient Dali. Donc je cite, « Telle est ma pensée, tel est mon esprit, férocement concentré sur lui-même, bloc de diamant, mais aux facettes si multiples, si chatoyantes que le réel qui l'entoure en est déconcerté, trompé, piégé, leurré. » Merci.
Merci. Merci pour ces conférences. Obrirem ara un torn de paraules. Si algú que li podria fer alguna pregunta o alguna observació.
En català m'està bé.
Ella entén el català.
No, en castellà.
Però si no, la puc mirar, o castellà. Oh, en anglais? En anglais, oui, oui. No, 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 se sent, no se sent.
It's about the thematic, which thematic?
The thematics of the true and
the false. Ah, yeah, yes. Oui, je vais répondre en français. C'est un texte, effectivement, qui est axé sur le concept de simulacre. Le simulacre, pour Dali, est l'objectivation du désir. Donc, cette idée de simulacre met en cause, justement, la frontière entre vérité et fausseté, parce que, justement, par cette idée de simulacre, Dali renverse la théorie platonicienne de la connaissance, à mon avis. C'est dans le simulacre, donc dans l'image fausse, qu'on trouve la vérité, alors que pour Platon, si vous vous rappelez le mythe de la caverne, plus on s'élève, plus on se détache de ces images trompeuses pour aller vers l'amour, vers le soleil, ce principe unique de vérité. Donc, je pense que ce texte illustre vraiment ce renversement du système de connaissances platoniciens, et cela grâce à cette idée de simulacre, une image qui matérialise le désir.
Si vous trouvez la vérité dans l'image fausse, ça signifie que vous savez parfaitement quelle est l'image fausse.
Alors c'est une bonne question parce que on ne sait pas quelle est l'image fausse, justement. Et le simulacre permet de effacer en partie cette frontière entre vérité et fausseté. Par exemple, les images multiples, finalement, à la fin, on ne sait pas quel est l'objet réel et quel est l'objet fantasmé. Le fantasme peut devenir réel et le réel fantasme. Donc, il y a, en tout cas, au moins théoriquement, hein, ça c'est en théorie pour Dali, cette réciprocité qui est possible. Après, alors en réalité, ça se passe quand même un peu différemment. Parce que, par exemple, dans la métamorphose de Narcisse, on a une image qui se veut plus ou moins liée au réel, le narcissome, qui devient Narcisse fleur. Donc là, il y a un sens, ça va dans un sens. Donc le fantasme semble bien être défini. À mon avis, chez Dali, il y a quand même un problème entre conception théorique et mise en pratique. Donc il y a une conception théorique très relativiste et la pratique l'est beaucoup moins parce que finalement, dans un tableau, les images multiples ont une certaine limite. On ne peut pas démultiplier techniquement à l'infini une même forme avec une multiplicité de significations. Donc, à mon avis, il y a quand même un souci entre théorie et mise en pratique. Oui.
Walter.
Si je ne m'abuse, dans cette contradiction que vous dites entre la pratique, je pense que Dali a poussé à fond avec sa même façon d'être au jour, quand il dit même la seule différence entre les surréalistes et moi, c'est que moi je suis surréaliste, c'est vrai, car quand un surréaliste arrive chez lui, il doit se détacher en disant à ses enfants, tu dois aller à l'école, passe-moi le sel, lui, il arrive au point de lui-même devenir faux dans des moments, le faux Dali, le vrai Dali, quand il y a des moments où il y a un photographe qui arrive, il devient lui-même sans savoir ou en sachant, c'est sa vie même qui devient surréaliste jour au jour et moment à moment. Quand on va chez lui, on voit que le reste des humains, nous avons tous les mêmes maisons.
Oui.
Quand on voit dans son parcours, n'importe quel moment de sa vie, tout le monde a des anecdotes, parce que c'est quelqu'un qui nous détache rarement, qui détache rarement dans sa pensée surréaliste, il pousse ça à fond même dans son jour à jour, je pense.
Et j'ai juste peut-être un constat, ça c'est surtout vrai pour le Dali post-surréaliste, un Dali qui se met en scène lui-même et qui construit son personnage, il y a vraiment une stratégie de construction programmée du génie. Et je pense que c'est un peu moins vrai pour les années 20 et les années 30, il y a beaucoup moins ce souci de mise en scène de soi, qui va être présent beaucoup, beaucoup plus tard. Cela, si on lit justement les documents, par exemple dans le journal intime de 1919-20, on n'a pas du tout, on a un Dali tout à fait une personne tout à fait normale et un jeune adolescent. Donc il y a vraiment au fil des années une volonté progressive de construction de soi et liée à cette activité paranoïaque critique, mais elle n'est pas présente dès 1929-30, c'est-à-dire au moment de l'élaboration de l'activité paranoïaque critique. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette cohérence-là à partir des années 40, c'est-à-dire de construire son personnage à partir de ses principes éthiques et esthétiques de l'œuvre, donc se construire et devenir soi-même une œuvre d'art, selon ses propres principes.
C'est...
Sobre Angoche,
le poème
Narcisse,
tu voudrais
dire
un mot
sur la,
en
signification d'Angoche ou la relation dans le poème?
T'as compris le chien?
Le chien.
Dans
le...
Ok.
Je vais juste... Oui. Ici, oui. Le chien. Alors, on peut imaginer, en tout cas, si on met en relation le poème et le tableau, au premier plan, on nous donne vraiment une mise en intrigue complète de la transformation de Narcisse. Le premier Narcisse, c'est la situation initiale. Le deuxième Narcisse, c'est la situation finale. Et justement, cet animal qui mange une charogne, c'est la transformation, une image de transformation. On parle toujours de désir qui dévore. On est dévoré par le désir, et là on a une figuration de cette dévoration, et on dévore quelque chose de dégoûtant, à nouveau, hein, une charogne, quelque chose de dégoûtant qui va devenir blancheur, la blancheur du Narcisse et de son œuf. Donc il y a toujours cette idée de désir dévorant qui est incarné par elle. L'amante religieuse, et vous voyez cette courbure de l'amante au moment de l'acte sexuel, c'est vraiment la courbure qu'on retrouve chez Narcisse, dans le Narcisse de Dali, disons. Oui.
Vous avez parlé de principes éthiques. Est-ce que vous pouvez en annoncer quelqu'un?
Mais à mon avis, la paranoïa critique, ce n'est pas une esthétique. Ou ce n'est pas seulement
une épistémologie, probablement.
Une épistémologie, donc une éthique dans le sens d'une aussi une morale de vie. Ça va devenir une façon de vivre. Et ça c'est lié quand même au groupe surréaliste. Ils conçoivent le surréalisme comme une éthique, c'est-à-dire une posture morale face au monde, une pratique de l'automatisme psychique comme comportement vital. Ça, c'est théorisé par Breton, et Dali se retrouve sur la même lignée. Donc le surréalisme n'est pas, pour les surréalistes, une esthétique, mais elle est conçue par eux, et après, il faut voir si c'est vrai, mais elle est conçue comme une éthique qui permet de mettre en cause les valeurs bourgeoises, etc. Il y a une valeur de démoralisation extrêmement importante.
Si. Sur une chose, les formigas que están pujando allá, son formigas, me parece.
Les formigas.
Oui. Les fourmis sont souvent chez Dali rattachées à cette idée de pourriture et de éléments du bas. Quand il y a quelque chose de malsain, il y a également des fourmis. Mais justement, les fourmis se trouvent non pas en haut, hein, il se trouve en bas de l'amant. Donc, à nouveau, c'est cette idée de transmutation entre le bas et le haut qui peut être confirmée par ces fourmis. Oui.
Je ne m'abuse. Ce qui est bien chez Dali, c'est qu'on peut faire des interprétations très personnelles, parce que ça, c'est c'est la richesse du Dali. Chacun a son Dali à soi. Ça, c'est fantastique. Je vous dis ça parce qu'on avait lu sur, je pense sur, je ne peux pas vous dire précisément, mais sur les fourmis, il y avait une théorie aussi qui disait que c'était un peu les remords. Et il les place souvent dans les pensées, les choses que nous pensons mais ne nous voulions pas, ou bien à côté de la bouche, les choses que nous dîmes et nous ne voulions pas dire, ou bien dans le cas à côté des zones érogènes, dans le cas des choses que nous fîmes mais ne nous voulions pas faire.
Et disons, évidemment, on peut trouver tout chez Dali parce que c'est une machine à révéler les fantasmes. Mais je cherche quand même à avoir une attitude critique. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'analyser des symboles, mais de montrer comment ça marche chez Dali, quels sont justement les principes de construction des récits, principes de construction de tableaux. Donc, je suis pas tellement dans l'analyse de tel objet, signification de tel objet, mais comment ça marche, le mode de fonctionnement et comment ce mode de fonctionnement est nourri par des modèles, parce que chez Dali, il y a vraiment, et c'est vraiment un auteur absolument fascinant pour ça, il y a une réappropriation des éléments d'autrui pour en faire quelque chose de tout à fait original.
Bé, doncs, la pausa la tenim després de la conferència d'Òmit Lomas, de manera que farem 5 minuts per estirar les cames i canviar, posar les imatges i reprendrem. D'acord. Très bien, merci.